qu'on doit voir sur mon peuple, on doit me voir comme étant le Dieu de ce peuple. Donc il faut que dans la conduite de ce peuple, on reconnaisse quelque chose du Dieu de ce peuple, de ce peuple. Qu'est-ce qui a fait qu'Hachem a choisi Abraham pour que les descendants d'Abraham, ultimement, après le séjour en Égypte, puissent devenir le peuple d'Hachem? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il y a chez Abraham qu'il n'y avait pas chez Noé, par exemple, qu'il n'y a pas chez Shem? Pourquoi ce n'est pas eux les patriarches? Pourquoi eux ne sont pas devenus les patriarches? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a chez Abraham? Alors, si on vous demande qu'est-ce qu'il y avait chez Abraham de particulier, qu'est-ce que vous allez dire? Bon, je pense que Shem aussi, il avait une foi inconditionnelle. Même si dans Noach on dit qu'il était Mictané Amana, d'accord, il n'avait pas une émouna en béton armé, Noach. Qui? Abraham? Non, Noach, il n'est pas devenu. Mais qu'est-ce qui a fait positivement qu'Abraham est devenu ce qu'il est devenu, l'ancêtre du peuple? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire se mettre en marche? Tous les peuples se sont mis en marche. Tous ceux qui ont donné naissance à un peuple, ils se sont mis en marche.
Il avait poursuivi sa conviction, c'est-à-dire sa croyance en
Mais
Dieu.
ça, je pense que tout le monde a fait ça. Tous les peuples qui se sont séparés des autres peuples, quand il y a eu un peuple qui a, une partie d'entre eux sont partis, ils ont créé une nouvelle peuplade, ben, ils se sont séparés.
Mais lui, c'est toujours aussi parce qu'il a cassé les idoles de son
Et
père.
ce sont aussi probablement les gens qui sont partis. Je suis désolé, mais je pense que tous les gens qui ont quitté, ils ont aussi cassé la baraque avant de partir. Enfin, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils en pouvaient. Il a cassé des idoles, mais il n'a pas mis le régime de Nimrod en danger, hein. Il a rendu son père persona non grata là-bas. C'est tout. Pardon?
Par contre, on connaît qu'il a ce bon exemple, mais c'est vrai qu'il a vu la Torah d'une manière immense.
Oui, bon, mais ça, c'est pas encore. Non, je crois pas.
Parce que c'est pour la caractéristique
Oh, lui, il a reconnu, mais si vous voulez, même si c'est pas la vérité, les autres aussi, ils ont eu des illuminations où ils ont compris que il fallait mettre tel ou tel point en avant. Mais non, le problème, pourquoi Hachem lui a parlé? Pourquoi Hachem lui a parlé? Alors,
Rabira
question. Oui?
doleket.
Oui, non, mais ça. Bon, il a compris qu'il y avait un. Bon, mais il y a peut-être Akhenaton aussi, il a peut-être compris qu'il y avait une divinité. Il a bien vu le soleil. Crois-moi, le soleil, c'est impressionnant, hein? Si on ne savait pas qu'il ne faut pas adorer le soleil, fais la liste de tout ce que tu dois au soleil, à part les coups de soleil, mais
Mais
tu
le Midrash dit Bira Doleket, il ne parle pas des changements de la nature, il parle d'un problème de justice. Il se demandait qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas logique, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Ben oui, mais justement, alors. C'est
C'est
pas.
sur le plan social,
C'est
pas sur le plan
simplement.
naturel. Il n'était pas impressionné par les changements des climats ni des natures, mais par des choses de sociales qui ne marchent pas, l'injustice.
Bon, mais je ne pense pas que ce soit spécifique à Abraham.
Baal Habira, oui. Akadosh Baruch Hu se révèle à lui comme Baal Habira. C'est pas
Il y avait
révélé
un
à quelqu'un d'autre. Hein.
Balabira. Il a reconnu qu'il y avait un patron.
Voilà.
Mais
Mais
à
c'est
quelle
l'eau
intonation?
d'Abarkatan, c'est l'eau d'Abarkatan.
Mais Abraham, il a assuré, il a senti profondément que
Ah,
la
c'est
vie.
pas, le problème, c'est qu'il y a quelque chose de spécifique
La
qui
fait.
va se retrouver, oui, qui fait que Hachem l'a choisi. Alors, je vais vous donner une indication. Les descendants d'Abraham, Avinu, ils sont en Égypte. Hachem dit à Moshe, tu vas chez Paro. Et tu lui dis, Israël, les descendants d'Abraham en question, ils sont béni Bechori, ils sont mon fils premier-né. Et je veux que tu les libères pour qu'ils aillent me servir, et sinon je tuerai tes premiers-nés. C'est une indication. Avec ce qu'on a déjà souvent dit au sujet du premier-né. Avec cette histoire que le premier-né, vous vous
Il
souvenez que
montre
le
la voie.
premier-né écrit 222.
Il montre la voie au. Il est l'intermédiaire entre le père et ses enfants.
Oui, alors?
Alors, il montre la voie et il enseigne, il transmet, il est transmetteur.
Le?
Il transmet.
Oui, qui transmet?
Abraham transmet la Torah d'Hachem à ses fils.
Voilà, c'est ça, c'est écrit. Hachem dit lui-même, pourquoi je choisis Abraham? Parce que je le connais, il va transmettre. Des gens qui ont compris, il y en a plein probablement. Mais ils n'ont pas transmis. La transmission, même la transmission d'Abraham, elle a été difficile. Parce qu'Abraham, il avait plein d'élèves, et Sarah avait plein d'élèves à Haran,
Il n'y a plus rien.
et la génération après, il n'y a plus rien. Donc, la transmission, elle n'a pas marché. Ça n'a pas marché.
Comment peut-il acheter la vie?
Mais après, mais Hachem dit, je vois bien, ça n'a pas marché, mais il a essayé. Et avec son fils, ça a marché. La caractéristique du peuple d'Hachem, c'est qu'ils sont ceux qui vont transmettre l'enseignement d'Hachem aux autres nations. C'est ça la caractéristique du peuple.
Aux autres nations ou des nations?
Pardon,
Aux autres nations ou
au
aux autres
notre, ben alors, à l'intérieur d'eux-mêmes, aux générations, et donc pour
nations?
Ça, c'est au niveau de la famille, quoi. Mais pour les nations, pour Israël, doit être hors la goyim, elle doit transmettre aux générations, aux autres, aux générations et aux nations, dans toutes les générations, on doit transmettre ses valeurs. Ça, c'est la caractéristique du clan d'Israël. C'est pour ça qu'ils sont, c'est pour ça qu'Hachem a choisi, Abraham, et c'est ça qu'il redit quand il dit pourquoi c'est précieux, pourquoi le clan d'Israël est précieux pour Hachem, si on peut parler comme ça, parce que ce sont les transmetteurs. C'est eux qui assurent la transmission de cet enseignement. Sinon, ça ne se transmet pas. Sinon, c'est il y a des générations, hein, ils comprennent, mais la génération, ça ne marche pas. Pour reprendre l'exemple d'Akhenaton, ça a marché. Lui, il a compris quelque chose. Bon, c'est pas la Torah, mais au moins il était un monoâtre. Il n'avait plus qu'une seule divinité. Donc, on peut dire qu'il était maintenant sur le bon chemin, éventuellement. On peut dire comme ça parce qu'on voit bien que la fille de Paro, qui est une akhénatoniste, elle vient, elle, elle, elle passe de Akhenaton aux valeurs de la Torah, enfin, telles qu'elles sont enseignées à ce moment-là par les Hébreux. Donc c'est bien sur le bon chemin. Mais ça, il n'a pas transmis, ça n'a pas marché. On dirait ça, il a transmis à une bonne femme, en tout cas, et ça a bien marché pour elle, mais et pour nous aussi, grâce à ça, elle a sauvé Moshe.
Et ça
Et ça n'a pas marché. Et ça veut dire qu'il a voulu enseigner, mais eux, ce qu'il n'a pas compris, c'est que, bon, c'est comme ça qu'on l'avait expliqué, il n'a pas compris qu'on ne peut pas enseigner par fusion. Il manque la distance. Il faut de la distance pour transmettre. Il faut une distance entre le maître et l'élève. Ce qu'ils ont fait, comme ça que j'avais expliqué le Midrash, il y a peut-être d'autres explications, en tout cas celle que j'avais donnée en son temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont tous appelés Abraham ou bien toute Sarah. Ils se sont identifiés complètement, ils ont fusionné. Quand ça fusionne, ben, tu disparais. Donc, Akadosh Baruch Hu dit au clan d'Israël, il leur a dit, je vais faire de vous mon peuple. Et on ne devient le peuple d'Hachem. Quand est-ce qu'ils deviennent le peuple d'Hachem? Au Sinaï, quand ils vont recevoir la Torah. Donc, si vous voulez, ils deviennent le peuple d'Hachem et ils deviennent vraiment libres. C'est ça le quatrième cos. Le quatrième cos, ils disent pas simplement, je sais pas, la quartier Trem, Micham, je sais pas quoi. Non, non, je vous ai pris comme vous êtes mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis justement Hachem, votre Dieu, c'est celui qui vous a sorti d'Égypte. Qui est fondamental, c'est moi qui vous ai accouché en quelque sorte. C'est moi qui vous ai sorti du ventre de votre mère, quoi. C'est sûrement une césarienne, quoi. C'est pas. Matarachlo goy mi kerev goy. Prendre un peuple au sein même d'un autre peuple, c'est quelque chose que personne n'a jamais fait. Parce que les Bnei Israël n'étaient pas un élément étranger. Ils étaient malheureusement trop intégrés dans l'Égypte et c'était très très difficile de sortir les Bnei Israël qui étaient englués, si vous voulez, dans la matière égyptienne. Et c'est ça donc Matan Torah. Matan Torah, c'est pas simplement une loi qui a été énoncée, etc. C'est l'aboutissement de la sortie d'Égypte. Mais c'est le fait que le peuple devient le peuple d'Hachem, ce qu'il n'était pas jusque-là, bien sûr. Alors, ils sont arrivés au Sinaï, et je vais prendre un peu dans le désordre. Dans le Passouk Yud-Tet, pardon, Passouk Bet du Perek Yud-Tet, marqué Vayis ou Mirefidim, Vayavo ou Midbar Sinaï, Vayachanu ba Midbar, Vayichan Sham Israël Negedar. C'est ça le fameux verset. Parce que, comme vous voyez, au début du verset, on parle d'eux au pluriel, Vayavohu, et après c'est marqué Vayichan Sham. On a passé du pluriel au singulier. C'est-à-dire c'était un ensemble de personnes, pluriel, et il est devenu un peuple Negedahar, en face de la montagne, où ils vont recevoir la Torah. Alors Rashi s'arrête sur le fait que le verset qui, en quelque sorte, décrit, mamash, entre le début et la fin du verset, ils sont devenus un peuple. Ce verset, il commence par Vayis'u Mirefidim. Ils sont sortis, ils ont voyagé à partir de Rephidim. Je vous rappelle, Rephidim, c'est là où Amalek a attaqué. Rashi dit, Vaïsoum Rephidim, Lama utzrach lachzor ulfaresh mechanasor. Rashi demande pourquoi on nous répète d'où ils sont sortis. On vient de dire avant qu'ils sont arrivés à Rephidim, on sait ce qui s'est passé. Maintenant, ils sont partis, donc ils sont partis de Rephidim, bien sûr. Ils sont partis de là où ils étaient arrivés. Alors que Varkatav, c'est Rephidim, à Yuchonim. On sait qu'ils campaient à Rephidim. Nassou, pardon. On sait qu'ils sont sortis de là-bas. Et là, bien sûr que ça a une raison. La raison pour laquelle on cite Rephidim au début de ce verset, la kishnesiatam le biatam le midbar Sinai. On veut comparer leur départ de Rephidim et leur arrivée dans le désert, arrivée dans le désert du Sinaï, bien sûr.
Oui.
Et on va dire comme ça, ma Biatan le Midbar Sinaï Bitshuva, Afnesiatan Mirfidim Bitshuva. Donc, on vient apprendre du futur sur le passé. On est en train de nous dire que puisque quand ils sont arrivés au Sinaï, ils étaient dans un état de Tshuva, alors quand ils sont partis de Refidim pour arriver au Sinaï, ils étaient déjà dans cet état de tchouva. Alors la question c'est, mais Pitom, pourquoi on lit ce verset comme ça? Quelle nécessité y a-t-il de lire un verset pareil? On ne peut pas lire qu'ils sont partis avant d'avoir fait tchouva, mais qu'en chemin ils ont fait tchouva. Et quand ils arrivent dans le désert du Sinaï, ils ont fait tchouva. De même que quand ils sont partis, ils n'étaient pas un peuple. Et quand ils arrivent, ils sont un peuple. La question, elle est, tu me dis que parce qu'ils sont, on compare, quand ils sont arrivés, ils avaient fait tchouva. Donc, ça veut dire que quand ils étaient partis, ils avaient fait tchouva. Ma pitonne. Logique. Il faut bien imaginer qu'ils sont partis avant d'avoir fait tchouva, qu'ils ont fait tchouva en chemin et quand ils arrivent, ils ont fait tchouva. Hazal nous ont dévoilé ici quelque chose de très important qui est le principe même qui s'appelle Hachana, la préparation. C'est que il faut que le premier pas soit déjà dans la bonne direction, en fait, dans le bon état d'esprit. Il fallait que le voyage commence, le voyage pour aller dans ce désert du Sinaï, il commence de la bonne manière. Parce que la réussite, elle dépend de la préparation. Toutes les choses doivent avoir une préparation. Et si on prépare bien, alors ça sort bien. En vérité, la réussite, elle ne dépend pas vraiment de nous. Tout ce que nous, on peut faire, c'est se préparer. En vérité, les hommes, les êtres humains, ils peuvent seulement se préparer au mieux, voilà, pour que ça puisse sortir. C'est pour ça que la Torah, elle fait toujours tout un plat de la préparation. Au début de l'année, il y a Rosh Hashanah. Au début du mois, il y a Rosh Chodesh. Au début de la journée, il faut dire Modéani. Commencement, c'est un point fondamental. C'est elle qui va, c'est ce commencement qui va décider ce que sera la suite. Pour ça que la Gemara donne un exemple assez connu où Rabbi Yehuda HaNassi, il fait l'éloge de Rabbi Chiya. Et il dit, Kama gdolim maaseh Chiya. Ce que Chaya a fait, c'est extraordinairement grand. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Aya Zorea Pishtan. Il a semé du lin. Ensuite, il en a fait des cordes avec ce lin. Il a fait avec ses cordes, il a fait des filets. Avec ses filets, il a pris les pièges des cerfs. Les cerfs, il a prélevé la peau des cerfs. Sur la peau des cerfs, il a écrit des sfarim. Et avec ces sfarim, il a enseigné aux enfants. Et donc, ce que Rabbi vient dire, c'est que Rapria, il a compris que pour que ça réussisse, il fallait que depuis le début, ce soit parfait. Il aurait pu acheter des pots de serre chez n'importe quel marchand. Ça n'aurait pas été la même chose. Déjà, il a tout, même le lin avec lequel on va fabriquer les cordes, avec lesquelles on va fabriquer les filets, etc. Tout ça, c'était fait dès le départ dans l'intention de produire des sfarim avec lesquels on va pouvoir enseigner. Si Chazal disent que pour Rosh Hashanah, il faut se préparer durant tout le mois d'Elul. C'est qu'il faut commencer, en fait, dit-il, à partir du mois de Shvat. Donc, il faut commencer maintenant à se préparer pour Rosh Hashanah. On va dire que si quelqu'un fixe l'endroit de sa prière, il prie toujours au même endroit. J'ai lu à la maison, dans la synagogue, etc. Alors, Elokei Avraham Beozro, le Dieu d'Avraham va l'aider. Il n'a pas encore prié déjà, mais il a fixé l'endroit où il va prier. Que? Oh non, il voulait dire par là, il faut commencer bien avant. Oui, on peut commencer aussi à la fin du mois de Tichri et commencer pour l'année d'après. Il a dit comme ça, il a cité comme ça. Donc, d'une certaine manière, dans sa préparation, il a déjà quelque chose à voir avec Abraham et avec le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire avec celui qui a commencé. On dit que l'Ebné Israël, dans le verset, c'est marqué Vaïchan Sham Israël Neged Ahar. Et Rashi dit sur Vaïchan Sham, il a campé là-bas, le clan Israël, Keish Echad Belev Echad, comme un seul homme avec un seul cœur. Et c'est ça la préparation à Matan Torah. Pour se préparer à recevoir la Torah. Sans cela, il n'aurait pas pu recevoir la Torah. Ishechad, oh, c'est pas parfait, mais c'est, il y avait l'intention de, l'intention était là. Il y avait déjà une kavana. Tout a été fait dans l'intention de fabriquer des, d'obtenir des sfarim avec lesquels on va pouvoir enseigner. Pas si c'était parfait, mais l'intention était là. Ensuite, dans le passouk Gimel, où Moshe alla el à Elohim, Moshe est monté vers Elohim, va écrire el av Hashem min ahar les mots, Hashem lui a parlé, la voix semblait venir donc de la montagne, et il lui a dit il lui a dit quelque chose qui va devoir répercuter. Kotomar le Bet Yaakov, Betagid l'Ivne Israël. Alors vous connaissez tout ça. C'est Rashi explique. Kotomar le Bet Yaakov, ainsi tu parleras à Bet Yaakov Elo Anashim. Ce sont les femmes. Et le mot, le tu parleras, c'est Amira. Et vous vous souvenez, Amira, c'est la parole douce, par opposition au dibour qui est plus dur. Et la Haggadah, c'est aussi dur parce que si on entend comme dans le guide, dans la Haggadah comme le guide, hein, le guide, c'est les tendons, c'est dur. Donc. Bet Yaakov, c'est Nashim. Alors Rashi dit aux femmes, Tomar la'em belashon raka. Aux femmes, tu leur diras ça façon douce. Mais aux bnei Israël, aux hommes, tu leur diras que s'ils le font pas, ils vont être sanctionnés. Varim akashim, tu vas leur dire des choses dures. Ça veut dire que la Torah, elle a deux langages. Il y a Amira, c'est la parole douce, il y a Jdibour, et il y a le Dibour, c'est la parole plus dure. Aux femmes, il faut parler des paroles douces. Et aux hommes, il faut leur parler sanctions, etc. Pardon?
On commence par les femmes.
Oui, il parle aux femmes doucement. Mais Rav Golbe, il disait que si on savait comment parler aux gens, on pourrait convertir facilement le monde entier. Si on explique à quelqu'un la beauté et la profondeur de la Torah, tout celui qui l'entend, il va faire tchouva. Ça veut dire que normalement, on devrait être capable de maîtriser les deux langues en question. Puisque dans certains cas, il faut parler cette langue, et dans d'autres cas, il faut parler une autre langue. Il y a un ouvrage qui s'appelle Orchot Chaim, Les chemins de vie. Un ouvrage qui a été rédigé par Le Roche. Le Roche, c'est donc un Rishon. Il a écrit ça pour son fils. Et c'est des préceptes, en fait. Et à un endroit, il écrit, Védibar tabam. C'est-à-dire, tu parleras de Torah à table. Et on peut se demander, ça a été demandé par des Baalei Moussar, qu'est-ce que le Roche nous dit là de nouveau? Il dit Bar Tabam, c'est dans le premier paragraphe du Shema. On n'a pas besoin de Roche. Le fils du Roche, il n'a pas besoin que son père lui dise qu'il faut parler de ça. Alors, le Rav qui a posé la question, il a répondu comme ça. Le Roche vient nous dire ici que l'homme, il doit apprendre à parler des divrei Torah de telle sorte qu'on puisse en parler à table. Parce que si on dit simplement les divrei Torah à table, dans le langage des divrei Torah qui sont dits au Beit HaMidrash ou comme ça n'intéresse personne. D'abord, on ne comprend pas. La femme est trop fatiguée pour écouter. Et les enfants, ils ne comprennent pas du tout ce qu'on parle. On dit, c'est pas ça qui s'appelle en parler à table. Faut trouver un langage qui va rendre les gens attentifs, faire en sorte que les gens soient capables, aient envie d'écouter. Et ça nécessite une certaine langue adéquate pour parler des livrets Torah à table. Je pas entendu ça. Non, mais moi,
C'est presque un langage, ce langage-là. C'est presque une...
C'est du théâtre. Mais je ne pense pas que ce soit naturel. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Oui.
On n'est pas à la hauteur de ce langage.
En tout cas, le Roche, il a pensé, d'après ça, il a pensé que son fils, il devait être à la hauteur et qu'il devait. Et c'est un texte qu'on a l'habitude, dans certaines yeshivot, de lire systématiquement tous les jours, en tout cas tout le mois d'Eloul. Les yeshivas à Guetzet, par exemple, c'est une de ces yeshivot où on lisait cet ouvrage. Un jour, chaque jour, on lisait un certain nombre de phrases. Dans ma chibé, on n'a pas lu ça.
Mais on ne parle pas de se mettre au niveau des enfants. On
Il
parle...
faut aussi se mettre au niveau des enfants. C'est-à-dire, si tu tiens un langage que les enfants ne peuvent pas comprendre, il ne faut pas leur demander de t'écouter. Alors bien sûr, quand on a des enfants de tous âges, c'est un peu compliqué parce que Bon, puis il y a des enfants qui sont capables d'entendre un langage un peu plus sophistiqué, d'autres qui ont besoin que ça soit dit de façon très très simple. Les enfants, ils vivent ce qu'on... À table, en plus, c'est compliqué de parler à table. Est-ce qu'on veut qu'en même temps les enfants mangent? Les enfants, ils vivent de toute manière ce qu'ils ont appris. On a un petit enfant qui est rentré chez lui, à Parshat Chaye Sara. Il est rentré, il a dit à sa mère, tu t'imagines ce pauvre Yitzhak? La semaine dernière, il est né, et cette semaine, il a déjà perdu sa mère. En une semaine, il a perdu sa mère.
Pour en parler à table devant les enfants, il faut que je sois seule à la crise de ça. Et en même temps, je me remets à la place effectivement, passion de la tripotée, que la voix soit habitée, qui est la Eguma à mon cœur, passe. Est-ce que c'est possible que la voix soit dite très, très simple?
Ce sera toujours un problème de simplicité. Les enfants, ils sont tout à fait capables de comprendre quelque chose à leur manière. C'est pas sûr que ce qu'ils comprennent, que vous avez dit, mais ce qu'ils ont compris, ça va les accompagner jusqu'au moment où ils vont comprendre. Ah, mes parents, ils avaient dit comme ça. Moi, j'ai cru que ça voulait dire ça, mais il va corriger tout seul. Il n'y a pas de problème. Faut pas leur raconter des choses fausses. Mais si eux, ils comprennent à leur manière. Vous fermez le micro si vous voulez entendre. Si ça n'a pas marché, alors ça n'a pas marché. On y... des fois, on n'est pas. Des fois, on n'a pas trouvé, c'est pas sûr du tout. Et comme je dis, dans la mesure où ça s'apprend, il est normal qu'il y ait un moment, effectivement, où je ne le savais pas. Je peux très bien comprendre au bout de quelques années, tiens, ben, la façon dont j'ai présenté les choses, ce n'était pas la bonne. Et on est faillible. Oui, faillible ou loupé, c'est le même
Non,
mot,
je veux dire, c'est la coup de massue. C'est la coup de massue qui n'est pas
c'est
là.
pas obligatoirement un coup de massue, c'est des fois quand on n'a pas su, on a cherché, on s'est trompé. Puis des fois, c'est parce qu'on a été négligent. Bien sûr. Mais c'est, premièrement, c'est possible qu'on ne puisse pas vraiment l'apprendre dans la mesure où c'est très personnel. Il y a peut-être des grandes lignes qu'on peut apprendre, mais à part ça dépend le rapport entre les parents et les enfants, par exemple, le rapport à l'intérieur d'un couple, etc. Ça peut être complètement différent d'un couple et d'une famille à l'autre. Et on n'a pas besoin, ou on ne peut pas utiliser la méthode de l'un, elle ne va pas obligatoirement chez nous. Même si je sais que chez lui, ça marche très bien, ou chez elle, ça marche très bien, chez moi, ça ne marche pas. Les enfants, ils sont allergiques à ça, ou bien même le ton de ma voix ne correspond pas à ça. Moi, je dois trouver mon ton de voix et ma façon de parler qui soit audible pour mes enfants. Et pour mon épouse, je veux dire. Alors ça peut se faire, mais on peut dialoguer avec mon conjoint, on peut dire, ouais, si tu, moi j'ai l'impression que tu devrais dire ça comme ci ou comme ça, c'est juste ou pas, peu importe. Donc, il y a une préparation. Et finalement, donc, Hachem a parlé, s'est dévoilé au Sinaï et il leur a parlé. Dans le passouk, c'est dans le chapitre Kaf. Au tout début du chapitre, Vaidaber Elohim et kol hadvarim ha'ele lemor. Elohim a parlé toutes ces paroles-là. Il les a parlées pour qu'elles soient répercutées, les morts. Et Rashi dit, Vaidaber Elohim, en Elohim elad Dayan. Elohim, c'est le nom divin qui correspond à la mida de rigueur, de din. Donc ici, Elohim fonctionne comme Dayan, dit Rashi. Le Mishayesh, Parshiot Batorah, Shima Saran Adam Mekabel Sachar, Vimlav, Eno Mekabel Alem pour Anout. Kugon Korbanot. C'est-à-dire, en fait, il vient de nous dire que il y a des parchiotes dans la Torah, où si on fait ce qui est demandé, bon, alors on a un salaire positif. Et si on ne l'a pas fait, il n'y a pas de mauvaises conséquences. Par exemple, les korbanot. Je vais faire les korbanot, je ne l'ai pas fait. Ainsi dit, Kol advarim ha'ele melamed, shama HaKadosh Baruch Hu aseret ha'dibrot, le dibour echad, ma chéie, efchar le Adam lo marqué. Alors ici, il y a quelque chose de très étrange. On en a déjà un peu parlé, mais c'est important de le redire, je crois. Que Akadosh Baruch Hu, il a dit les Aseret HaDibrot, les 10 paroles, toutes ensemble. Toutes ensemble. Il a fait là quelque chose qu'aucun homme ne peut faire, on ne peut pas parler toutes les paroles en même temps. Donc ici, on est en train de nous dire, c'est déjà Matan Torah. Mais c'est quoi ce Matan Torah? Il nous a donné un truc que personne ne peut comprendre. C'est pas simplement qu'on ne peut pas le dire, mais on ne peut pas l'entendre non plus. Donc, on a l'impression que, au fond, c'est ça, Matan Torah. lui donner la Torah. Elle est incompréhensible. Mais quoi? Mais tout le reste de la Torah, c'est un commentaire de ça. Tous les Aseret HaDibrot, en vérité, c'est une seule parole. Un peu comme quand on dit, certains disent, que les Aseret HaDibrot sont incluses dans le mot Anochi, dans le premier mot. Il y en a qui veulent dire que toute la Torah, c'est un seul mot. Seulement, le chesed d'Hachem, c'est qu'Hachem a séparé les choses et nous les a rendues audibles. Et là, il a émietté ça en mitzvot. En fait, cette idée que toute la Torah, c'est une seule mitzvah en réalité, mais qui est, comme on dit aujourd'hui, déclinée de toutes sortes de manières. Alors, où est-ce qu'on voit une indication concernant ça? C'est qu'il existe une Gemara, elle est dans Soukha, où il y a une opinion qui discute de la bracha qu'il faut faire si on fait plusieurs mitzvot en même temps. Normalement, sur les mitzvot, on a introduit des brachot. D'accord? On fait sur Kiddush, il y a une bracha, sur le lulav, il y a une bracha, sur achilat matzah, il y a une bracha, etc. Si je fais maintenant plusieurs mitzvot en même temps, alors, il y a une opinion qui dit, on fait Baruch, etc., Hashem, Asher Kiddushanu b'mitzvotav, effectivement, Kiddushanu b'mitzvotav, v'tzivanu à la mitzvot. Et on ne dit pas, comme on dit, v'tzivanu à la chilat matzah, ou à le netilat lulav, ou à le à de la Ner Shabbat ou etc. à la mitzvot. Donc ça veut dire, a priori, que toutes les mitzvot, en réalité, à la racine, c'est une seule mitzvah, c'est-à-dire obéir à Hachem. Mais c'est le chesed d'Hachem qui les a partagés en 613 pour qu'on puisse les accomplir. Et maintenant, on voudrait quand même comprendre un peu mieux. Qu'est-ce que ça veut dire que les Aseret HaDibrot sont incluses dans Anochi? Si j'ai entendu seulement Anochi, je sais déjà, je connais les dix paroles. On a toutes les mitzvot déjà? On est dans un monde où les choses sont séparées. C'est-à-dire, il y a un pays avec une police, avec une armée, avec des élections. Et il y a des cultures. Et la culture, elle se partage elle aussi en différentes parties. Il y a la science, il y a le droit. Et une des composantes, C'est ce qu'on peut appeler, pas sûr que la Torah soit dans cette catégorie-là, mais on peut appeler ça la religion, disons. Quelqu'un qui est cultivé va de temps en temps écouter un concert et un goy, il va le dimanche, il va à la messe. Et tous les matins et tous les soirs, enfin, tous les matins, disons, peut-être le soir aussi, il lit son journal. Et il lit la rubrique technique, il lit la rubrique sport. Imaginons qu'un bonhomme comme ça, il arrive au Sinaï. Et il écoute, il entend le Créateur dire Anochi Hashem Elokecha. Toutes les valeurs s'effondrent là-dessus. À partir du moment où il a reconnu qu'il y a un créateur, donc maintenant, on doit faire dans le monde que les choses qui nous rapprochent de ce créateur. Puisqu'il a dit, je suis dans le monde, donc avec ça, on peut construire un monde entier. Ça, ce sont les mitzvot. Quand Akadosh Baruch Hu dit Anochi, ça suffit. On va plus dire maintenant que la religion en question, c'est une partie de la culture. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas, ça a rien, y a pas de culture là-dedans. C'est la réforme, elle a voulu faire de la Torah, de la religion, du judaïsme, si tu veux, la Torah, elle a voulu en faire effectivement un élément, un département de la culture. Donc la personne, elle peut être religieuse plus quelque chose. Religieuse pour ci, plus ça, etc. Dans la Gemara, c'est écrit Ezeoui parasha ktana, shekol gufei Torah tluin ba. Quelle est la petite parasha dont toute la Torah dépend? C'est le pasouk qui dit Bechod drachecha taehu. Dans toutes tes voies, connais Hachem. C'est-à-dire, tu décides tout ce que tu fais en fonction de Hachem. Mais on peut être religieux, mettre les tefillin tous les jours, manger kasher, garder Shabbat, etc. Mais il y a encore d'autres valeurs que la Torah. Ça, c'est la réforme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on nous demande à nous de faire? On doit faire des choses qui nous rapprochent d'Hachem. Dans tous les domaines, on peut faire toutes sortes de choses, mais il faut les faire de la manière qui nous rapproche d'Hachem. Pardon,
pardon.
Bien sûr qu'on fait des gestes qui existent aussi dans la Vodazara. Tout le système des korbanot, etc., il existe aussi chez tous les idolâtres. Un système de sacrifice, ce n'est pas les mêmes sacrifices, mais la notion de sacrifice, le sacrifice sanglant, etc., tout ça existe chez les goyim aussi. Seulement la Torah, elle a mis des barrières. Elle a dit, tu vas le faire exactement comme ça et t'as pas de latitude. Même si on dit, comme le Rambam, que c'est une concession à l'esprit du temps, etc., mais la concession, elle va se... C'est pas qu'on a décidé qu'on pouvait faire comme eux. C'est-à-dire, on a besoin de faire quelque chose, alors la Torah dit, tu vas le faire exactement comme ça. C'est-à-dire, vous avez le même problème avec les esclaves. À la sortie d'Égypte, si vous aviez dû rédiger la Torah, vous auriez dit interdit d'avoir des esclaves, non? Or, la première chose qu'on nous dit dans Parshat Mishpatim, c'est le statut des esclaves. Mais justement, la Torah, si la Torah avait dit c'est interdit, les gens, ils auraient trouvé un moyen de tourner. La Torah a dit, vous voulez des esclaves? Oui, c'est possible, l'esclavage. Mais l'esclavage, c'est comme ça, exactement.
Dans la définition.
Alors, c'est si tu veux des esclaves, si tu en trouves, s'il y en a à vendre, si tu veux en acheter, tu peux le faire. Mais tu peux pas du tout te conduire avec ces esclaves comme se conduisent tes voisins, goy. Quand tu as un esclave et tu lui casses une dent, il est libre. Si tu avais dit ça. Aux propriétaires terriens du sud de l'Amérique, avec leur noir, que s'il lui casse une dent, il est libre. Ils n'auraient pas vraiment compris.
Parce que la Torah, c'est le logiciel du. Est-ce qu'on peut dire comme ça?
Pourquoi? Je ne sais pas ce que c'est qu'un logiciel.
Enfin, c'est je ne suis pas de point de vue informaticien. Ce que je comprends, moi, le logiciel, c'est à l'intérieur de ce système, il y a toute une intelligence, mais à l'intérieur de ce système.
Non, ce n'est pas à l'intérieur du système, c'est un autre système. C'est-à-dire que la notion d'esclavage, elle existe, mais pas à l'intérieur du système. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a des règles complètement qui font que ça n'a plus rien à voir. Mais c'est simplement, c'est comme si la Torah avait voulu dire, attends, le mot esclave, je vais l'occuper. Je l'occupe de ma manière pour que tu ne puisses pas l'occuper autrement.
Le mot esclave est sorti, existait, mais la définition, donc comme dit, le contenu de ce mot, c'est pas le même, donc on ne parle pas de la même chose.
Oui, c'est pas la même chose. Sauf que ça s'appelle aussi un esclave, que ça s'achète au même marché aux esclaves, mais à partir du moment où tu l'as acheté, tu as des lois complètement différentes.
C'est pas toutes ces
Mais
définitions.
c'est pas parce que la Torah elle dit ça sur l'esclavage que ça permet de dire que toute la Torah est comme ça. Sur l'esclavage, c'est comme ça. Non,
Manger la
pour tout le
Torah.
reste, c'est pas comme ça. Tout le reste n'est pas obligatoirement comme ça. Pas parce que sur ce point-là, c'est comme ça. Il y a des éléments qui se retrouvent dans les korbanot, par exemple, mais justement, tu n'as aucune latitude. Je t'ai concédé quelque chose, mais tu fais exactement ce que je t'ai dit et pas autre chose. Et ce n'est pas qu'on a tout permis, ça a donné un autre sens. L'idée, par exemple, traduire korbanot par sacrifice, ça n'a pas de sens. Parce que dans korban, il n'y a absolument aucune dimension du sacrifice. Corban, c'est une procédure d'approche. Tu te sens éloigné, tu peux te rapprocher par ce biais-là.
On a des explications. C'est pas
Oui.
Donc,
Et les halakhot, c'est ce qui nous donne, si on est, il faut écouter la halakha, elle te dit quelque chose du sujet. C'est pas simplement des lois plaquées comme ça. C'est des lois qui révèle la façon dont la Torah veut regarder ce sujet-là.
c'est ça qui nous est donné, c'est ça qu'on doit y arriver.
C'est ça.
Et donc, est-ce qu'au départ, pour ça, on aura presque exclusivement arrivé au programme de Pitaphone?
Est-ce
C'est-à-dire
que?
que Pitaphone,
Le bidon, c'est une chose bien particulière.
Mais si j'arrive tout ce qu'on me dit, parce que je n'ai pas d'explication logique dans la Torah. C'est pas une explication logique, c'est une
C'est pas
observation.
une obligation, c'est pas une explication logique. Des logiques, il y en a beaucoup. Il y a certaines fois une certaine logique interne qui a rien à voir avec la logique dans le monde. Mais la mécanique quantique, elle n'a pas non plus la même logique.
Parce que il y a une logique qui n'est pas la logique, c'est une logique. Et quelquefois, il y a des frictions avec cette logique, mais comme les profs, il n'y a pas d'explication à notre niveau. Mais c'est là où on peut placer le bitapone. Il doit arriver. Est-ce que c'est pas ce qu'il doit. C'est pas ce qu'il doit arriver à ça au départ. Ou à l'arrivée, devenir un bon. Il faut appliquer comme vous dites, parce qu'il ne faut pas que tout mon travail, ce soit cette transformation de moi en que devienne un petit apprenti, que devienne.
Bien sûr que le bitachon, c'est un des éléments qu'on doit acquérir. C'est une conduite, c'est une façon de voir le monde qu'il faut acquérir. Mais les halakhot, elles ne sont pas toutes liées au bitachon.
Elles sont là pour que je puisse appliquer ça parce que je vais dire que c'est une logique. Maintenant, je fais ça parce que je me le demandais quoi. Si je vais chercher des explications des logiques.
Oui, alors, c'est comme ça. La raison pour laquelle on fait les choses, c'est parce qu'Hachem a demandé qu'on les fasse comme ça. Moi, ben. Oui. Daron, c'est une certaine confiance. C'est pas. Pas. Je fais le raton d'Hachem. J'ai pas l'habitude, en tout cas, de considérer que c'est un problème de bitachon.
Ça ne
C'est le mot bitachon que vous utilisez ici que je. Non, je crois pas. OK.